initier ce débat qui nous renvoie aux enjeux d'aujourd'hui. Et justement, le chef évoquait tout à l'heure que l'un des enjeux du combat qui est mené aujourd'hui par les Premières Nations, c'est justement celui de l'environnement, sur un fond bien évidemment aussi identitaire très marqué. Et je crois qu'on aura justement depuis le XVIe siècle l'occasion, sur le long terme, d'évoquer toutes ces préoccupations. Nous allons dans un premier temps écouter Éric Thierry, qui est professeur d'histoire et de géographie en France, au lycée Paul Claudel de Laon. Éric est un spécialiste d'un des premiers auteurs qui a écrit sur la Nouvelle-France, Marc Pescarreau. Il lui a consacré sa thèse avant de se pencher de manière plus précise sur Champlain, dont il a commencé à publier des éditions critiques, des éditions bien sûr de ses œuvres. Le travail continue. Il a publié son dernier ouvrage l'an dernier, qui s'intitule, avec un titre un petit peu provocateur, « Espion en Amérique ». On aura peut-être l'occasion d'évoquer la chose tout à l'heure. Dans un second temps, nous écouterons donc Sébastien Côté, qui travaille ici, au Université de Carleton, et qui a fait ses études à l'Université Laval, qui est spécialiste des auteurs français du XXe siècle, et en particulier d'un certain Pierre Drieux de La Rochelle, qui est un homme de lettres français très ambigu, qu'on a beaucoup attaqué pour ses positions idéologiques. Mais depuis quelques années, il travaille de plus en plus sur ce qu'il appelle le patrimoine lettré de la Nouvelle-France, notamment sur tous ces textes justement qui nous permettent d'appréhender cette histoire sur le long terme que vous connaissez tous, et en particulier de ces relations qui ont uni dès le début français et amérindien. Enfin, dans un troisième temps, nous donnerons la parole au chef Gilbert White Duck, qui est chef de la Première Nation, Kitigan Zibi, qui a eu une action très importante en matière d'éducation, notamment comme conseiller et directeur, donc directeur du conseil de l'éducation à Kitigan Zibi, et puis peut-être et surtout en tant que conseiller à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Le mot éducation me semble ici fort important, et on fait le lien avec ce qui a été dit précédemment, c'est quelque chose de fondamental pour les jeunes aujourd'hui, qui nous permet tous ensemble ce projet, bien sûr, de se projeter dans l'avenir. Voilà, à tout à l'heure. Merci.
Merci. Alors tout d'abord, je tiens à remercier l'Université Carleton et l'ambassade de France au Canada de m'avoir invité. Je suis très heureux de me retrouver ici aux côtés de nombreux représentants du peuple algonquin. D'ailleurs, je les remercie pour leur accueil sur leur terre. Je suis très heureux aussi d'être ici aux côtés de nombreux collègues canadiens et de mon compatriote Michael Augeron. Alors, notre rencontre rappelle que la remontée de la rivière des Outaouais par Champlain en 1613 fut une rencontre entre les Européens et les Autochtones. Elle fut une rencontre, mais elle ne fut pas que cela. Elle fut aussi une tentative pour trouver des capitaux afin de relancer l'établissement français de Québec. Elle fut encouragée par le pouvoir royal français, car elle devait permettre à la France de commercer directement avec la Chine. Et enfin, elle fut l'occasion de ressouder l'alliance franco-algonquine qui, à ce moment-là, en 1613, était plutôt mal en point. Donc ce sont tous ces dessous de la remontée de la rivière des Outaouais que je vais présenter ici. Alors la remontée de la rivière des Outaouais par Champlain se situe dans un contexte très difficile pour l'établissement français de Québec. L'habitation de Québec a été construite pendant l'été 1608 sous la direction de Champlain grâce à des fonds réunis par une compagnie commerciale formée par Pierre Dugas de Mons avec des marchands rouennais, des marchands de Rouen, de Normandie, de Lucas Legendre et Pierre Collier. Et cette compagnie était chargée d'exploiter un monopole de la traite des fourrures qui lui avait été accordé par le roi Henri IV en janvier 1608 pour un an seulement. Bon, cette compagnie n'a pas eu de chance car dès le mois d'octobre 1609, le roi de France Henri IV a révoqué définitivement le monopole de la traite des fourrures dont cette compagnie bénéficiait. Et c'est donc, elle a été soumise tout de suite à une concurrence effrénée de la part des marchands de la plupart des ports français. Et cette compagnie de Dugas de Mons s'est vite vu privé de tous les fruits de son labeur dans la vallée du Saint-Laurent. Elle a commencé à accumuler beaucoup de pertes financières, si bien qu'à la fin de l'année 1611, cette compagnie de Ducas de Mons s'est disloquée. Ses associés rouennais ont finalement préféré partir. L'année 1612 a donc été très difficile pour Pierre Ducas de Mons. Bon, heureusement, il a pu s'entendre avec des marchands rochelais, et une société de marchands de Rochelais, de La Rochelle, donc a été autorisée par Pierre Ducas de Mons à utiliser l'habitation de Québec comme entrepôt pour la traite des fourrures en 1612. Et avec l'argent ainsi gagné, Pierre Ducas de Mons a pu envoyer à Québec du ravitaillement et quelques hommes au printemps 1612. Bon, Ducas de Mons a eu d'autres ennuis en 1612. En janvier 1612, l'amiral de France Henri de Montmorency a démissionné. Charles, et c'est Henri donc, qui est devenu amiral à sa suite. Et à cause de cela, Pierre Ducas de Mons a perdu sa charge de vice-amiral qu'il détenait depuis octobre 1603. En même temps, il a dû se battre pour obtenir des dédommagements pour la perte de son monopole. Bon, et il les a obtenus difficilement en février 1612. Donc Ducas de Mons a beaucoup de démarches à faire en ce début de l'année 1612, si bien qu'il laisse Samuel de Champlain assurer d'autres démarches afin d'obtenir un nouveau monopole de la traite des fourrures. Alors Samuel de Champlain contacte un personnage très important qui s'appelle le président Pierre Janin, qui est contrôleur général des finances du roi Louis XIII, c'est-à-dire ministre des Finances. Et ce président Pierre Janin, il est très important pour l'histoire des débuts de la Nouvelle-France. C'est un homme qui est très intéressé par les expéditions commerciales transocéaniques. Il a occupé une fonction importante, il a été ambassadeur du roi de France Henri IV auprès des Provinces-Unies de 1607 à 1609. Et ce président Janin a accepté de servir d'intermédiaire pour placer l'entreprise de Champlain sous le patronage d'un puissant personnage du roi de l'homme, afin de faire cesser toutes les menées des ennemis du monopole de la traite des fourrures. Et le président Janin a présenté Champlain au secrétaire d'État Martin Ruzé de Beaulieu, et ce Martin Ruzé de Beaulieu a lui-même introduit Champlain auprès de Charles de Bourbon, comte de Soissons, un des grands du royaume de France, puisque ce comte de Soissons était un cousin d'Henri IV, mais aussi le gouverneur de la province de Normandie. Et n'oubliez pas que l'entreprise de Québec, c'est une entreprise normande. Hein, ce sont les Normands qui ont fondé Québec. C'étaient les associés de Pierre Ducas de Mons. Donc le 27 septembre 1612, le comte de Soissons est devenu titulaire pour 12 ans d'un monopole de la traite des fourrures dans le Saint-Laurent. Et le 8 octobre 1612, le comte de Soissons a été nommé par le roi Louis XIII lieutenant général en Nouvelle-France. Et sept jours plus tard, il a choisi Champlain pour être son propre lieutenant. Bon, Champlain n'a pas eu de chance puisque le 1er novembre 1612, le comte de Soissons est mort. Il est mort d'une maladie très rapide. Alors, Champlain a pu bénéficier d'un autre réseau. Champlain est un homme de réseau. Il a pu bénéficier d'un réseau familial. Il a pu obtenir, grâce à sa belle-sœur Marguerite Boulay, il a pu obtenir une rencontre avec le prince de Condé. Hein, le secrétaire du prince de Condé était le mari d'une belle-sœur de Samuel de Champlain. Et le 13 novembre 1612, Henri de Bourbon, prince de Condé, cousin du roi de France Louis XIII et aussi gouverneur de Guyenne, c'est-à-dire un personnage qui avait sous sa juridiction la plus grande partie du littoral français de l'Atlantique, eh bien, a été nommé par Louis XIII lieutenant général en Nouvelle-France et aussi titulaire d'un monopole de la traite des fourrures dans la vallée du Saint-Laurent. Et le 22 novembre 1612, le prince de Condé a choisi Champlain pour être son lieutenant. Donc Champlain est presque tiré d'affaire. L'entreprise de la Nouvelle-France a un protecteur très puissant, un très proche parent du roi de France Louis XIII, quelqu'un qui, grâce à son autorité, pourra faire taire tous les opposants au monopole de la traite des fourrures. Bon, il reste malgré tout à trouver de l'argent. L'entreprise de Québec coûte très cher. Bon, il y a un monopole de la traite des fourrures, mais encore faut-il pouvoir l'exploiter pour financer l'établissement de Québec. Le roi ne donne pas d'argent, hein, tout est financé grâce à ce monopole de la traite des fourrures. Alors Champlain essaye de constituer une nouvelle compagnie avec l'aide de marchands rouennais et aussi de marchands rochelais. Et le 16 janvier 1613, Champlain réussit à conclure une entente avec un marchand de La Rochelle, un personnage très important pour les débuts de l'Acadie et pour les débuts de Québec, Samuel Georges. Et le 23 janvier 1613, Champlain conclut une autre entente avec des marchands rouennais, Corneille de Bélois, Daniel Boyer, Lucas Legendre et Louis Vermelin. Pas de chance, là aussi, le 9 février 1613, le Rochelais Samuel Georges décide de se retirer et il annule le contrat de société qui avait été conclu un mois plus tôt. Il n'est pas toujours très facile de travailler avec les marchands rochelais. Ils préfèrent faire cavalier seul et armer leur propre navire parce qu'ils ne croient pas au maintien d'un monopole de la traite des fourrures. Bon, Champlain réussit à obtenir des fonds des marchands, de quelques marchands de Rouen, et ça lui permet de partir au Canada. Et il embarque le 6 mars 1613 de Honfleur en Normandie sur un navire qui est commandé par un de ses proches, un personnage très important aussi pour l'histoire de la Nouvelle-France, François Gravé, sieur du Pont, un marin donc originaire de Saint-Malo, mais qui était installé à Honfleur. Alors, dans toutes ces démarches pour obtenir le patronage d'un grand, un nouveau monopole des fourrures, et aussi pour trouver des associés pour former une nouvelle compagnie, eh bien, Champlain a eu la tâche grandement facilitée par les révélations de Nicolas de Vigneault, des révélations qui lui ont été faites à Paris à la fin de l'été 1612. À la fin de l'été 1612 à Paris, Champlain a rencontré Thomas Godefroy et Nicolas de Vigneault. Alors ce sont deux jeunes garçons qu'il connaît depuis longtemps. Ce sont deux jeunes garçons qui ont vécu à Québec auprès de Champlain. Et Thomas Godefroy a été confié par Champlain en 1611 au chef algonquin Iroquois. Les algonquins d'Iroquois, ce sont les sonoms Chataronons, donc des algonquins qui vivent dans le Haut-Saint-Laurent et qui, à cette époque-là, sont habitués à passer l'hiver chez les Hurons, près du lac Simcoe. Donc Thomas Godefroy, c'est un des premiers truchements français qui a vécu au milieu des algonquins. Nicolas de Vigneault, lui, a été confié par Champlain en 1611 au chef algonquin Tessouat. Alors Tessouat, c'est un personnage qui est essentiel pour nous. Les Algonquins de Tessouat, ce sont les Guichets et Pyrénées, qui sont installés dans l'île Morrison, donc au milieu de la rivière des Outaouais, à proximité de l'île aux Allumettes. Ils occupent un emplacement stratégique extrêmement important, puisqu'ils vivent sur la route qui relie la Huronie à la vallée du Saint-Laurent. Et les Hurons, quand ils viennent pour la traque avec les Français dans la vallée du Saint-Laurent, eh bien, ils quittent leur baie georgienne, ils passent par la rivière des Français, par le lac Nipissing et par la rivière des Outaouais, et obligatoirement, ils passent par l'île Morrison. Donc les Guichets et Pyrénées, ils peuvent prélever une partie des fourrures que les Hurons apportent aux Français. Alors, Nicolas de Vigneault, qui a donc vécu sur l'île Morrison aux côtés de Tessouat pendant l'hiver 1611-1612, fait des révélations surprenantes à Champlain. Il lui apprend que pendant son séjour chez les Algonquins, il a eu l'occasion de voir la mer du Nord. Et il dit aussi que la source de la rivière des Outaouais est un lac qui se décharge dans cette mer du Nord. Il dit qu'entre les rapides de la Chine et la mer du Nord, il n'y a que 17 journées de voyage en canot. Il dit également qu'au bord de la mer du Nord, il a eu l'occasion de voir des restes d'un vaisseau anglais. ainsi que les têtes écorchées de nombreux Anglais qui avaient essayé de prendre par force le maïs et d'autres vivres des indigènes. Bon, les indigènes ne se sont pas laissés faire, ils les ont tués. Ils les ont presque tous tués. Il y a un seul survivant, un jeune garçon. Et Nicolas Vigneault dit que, d'ailleurs, les indigènes ont gardé ce jeune Anglais et qu'ils veulent le donner à Champlain si jamais il vient leur rendre visite. Alors ce récit remplit Champlain d'enthousiasme. La quête de la mer du Nord, c'est une quête qui est très ancienne chez Champlain. Elle a commencé en 1603. À ce moment-là, en 1603, Champlain fait son premier voyage en Amérique du Nord. Il va avoir l'occasion, avec François Gravet, de remonter le Saint-Laurent jusqu'au rapide de la Chine. Mais dès son arrivée, pendant que la traite se déroulait à Tadoussac, Champlain a eu l'occasion de remonter un petit peu le Saguenay, guidé par des montagnais. Et pendant ce petit voyage sur le Saguenay, eh bien, ces guides montagnais lui ont raconté qu'ils avaient l'habitude d'aller faire des échanges avec des Indiens habitant beaucoup plus au nord, dans la région du lac Saint-Jean, et que ces Indiens du nord disaient voir une mer qui était salée. Alors, cette Champlain va tout de suite, il pense, on va parler de cette mer salée, à la fameuse mer du Nord qui permet d'atteindre la Chine en contournant l'Amérique du Nord. Dès 1544, dans sa cosmographie, Jean Alphonse, navigateur des cosmographes, a dit que la mer du Nord était cette mer qui vraisemblablement permettait d'atteindre la Chine. Hein, c'est le fameux passage du Nord-Ouest. Alors, Champlain connaît tous les efforts qui sont faits pour essayer, depuis le milieu du XVIe siècle, de trouver ce passage du Nord-Ouest. Et il connaît en particulier les expéditions qui ont été organisées par les Anglais pour trouver les premiers le passage du Nord-Ouest. Champlain connaît les voyages de Martin Frobisher, qui ont été effectués en 1576, 1577 et 1578. Il connaît aussi les voyages de John Davis en 1585, 1586 et 1587. Et plus récemment, il connaît le voyage de George Weymouth à la recherche du passage du Nord-Ouest en 1602. Champlain connaît ces voyages parce qu'il a lu. Champlain parlait, il disait un petit peu l'anglais, et il a lu les Principal Navigations de Richard Aycliffe, qui ont été publiés à Londres de 1598 à 1600. Champlain était un grand ami d'Isaac Casaubon, et Isaac Casaubon était le garde de la bibliothèque du roi Henri IV, juste avant de partir lui-même en Angleterre. Et Champlain a entendu également parler du voyage d'Henry Hudson, du dernier voyage que celui-ci a effectué en 1610-1611, voyage qui lui a permis de découvrir la baie James, mais aussi la baie d'Hudson. Que Champlain connaissait la relation du voyage d'Henry Hudson, qui avait été publié par Essel Gerritz à Amsterdam à la fin de l'année 1612. Il avait réussi à obtenir un exemplaire de cette relation du voyage d'Henry Hudson grâce au président Jeannin, ancien ambassadeur aux Provinces-Unies, qui était lui-même un proche ami de Petrus Plancius, qui est le grand géographe néerlandais de cette époque, spécialiste lui-même des passages du Nord-Est et du Nord-Ouest, et aussi ami de Henry Hudson. Alors, donc Champlain est très au fait de tous les efforts qui sont faits par les Anglais pour trouver le passage du Nord-Ouest, et toutes ces informations lui sont très utiles lors de ses démarches auprès du Conseil du Roi à la fin de l'été 1612 pour obtenir la protection d'un grand. Il contacte les conseillers de Louis XIII, le chancelier Brûlart de Sillery, le maréchal de Brissac, lieutenant général en Bretagne, et aussi le président Jeannin. Et tous ces conseillers du roi sont enthousiastes par cette idée de pouvoir trouver le passage vers la Chine. Et on retrouve cet enthousiasme dans les commissions qui sont accordées au comte de Soissons et au prince de Condé, qui font la part belle à la recherche de la Chine, alors que dans la commission de Pierre Bougas de Mons de 1603, il n'y en était pas du tout question. Le pouvoir royal français veut trouver, les veut permettre aux Français d'aller chercher les richesses des Indes orientales. Bon, ça, c'est un vieil objectif, déjà sous Henri IV. Le 1er juin 1604, Henri IV a créé une compagnie française des Indes orientales. Bon, il n'a pas eu de chance parce que les Hollandais se sont opposés à cette volonté française d'accéder aux Indes orientales. Ils ont refusé de lui fournir des pilotes et des équipages. En 1609, Henri IV a créé une compagnie française du pôle arctique chargée de trouver un passage, alors cette fois-ci par le nord-est, au large de la Sibérie. Et bon, il y a eu une expédition en 1609, une expédition franco-hollandaise qui a été organisée, mais le capitaine Melchior van der Kerstorff travaillait pour le roi Henri IV, a finalement échoué, les bateaux se sont heurtés aux glaces au large de la Sibérie. Marie Médicis, épouse et veuve de Henri IV, a poursuivi les efforts de son mari et le 2 mars 1611, elle a renouvelé pour 12 ans le monopole commercial de la compagnie française des Indes orientales. Bon, on cherche à l'époque de la remontée de la rivière des Outaouais à permettre aux Français d'atteindre les richesses des Indes orientales et on songe aussi sur la route des Indes orientales à créer des établissements en Afrique et au Brésil. Il ne faut pas oublier qu'en 1613, Guillaume de Bricqueville fait une expédition au Sénégal et en Gambie qui se termine mal. Et de 1612 à 1615, il y a eu aussi un établissement français au Brésil, c'est la fameuse France et équinoxiale. Alors pour remonter la rivière des Outaouais jusque la mer du Nord, Champlain doit être guidé par les Algonquins. Mais en 1613, les relations de Champlain avec les Algonquins sont devenues difficiles. Champlain connaît les Algonquins depuis son expédition de 1603. Bon, mais c'est seulement en 1609 que l'alliance franco-algonquine a véritablement été scellée, puisque les Français, Champlain en particulier, ont pu remporter une victoire sur les Iroquois avec leurs alliés montagnais algonquins et hurons à la pointe de Ticonderoga, aux portes de l'actuel lac Champlain, dans l'état de New York. Bon, le 19 juin 1610, Champlain a remporté une nouvelle victoire contre les Iroquois avec ses alliés montagnais et algonquins près de l'embouchure de la rivière Richelieu. Mais dès 1611, des difficultés sont apparues. Les Algonquins, en juin-juillet 1611, sont arrivés en retard pour la traite avec Champlain dans la région de l'actuelle ville de Montréal. Pourquoi ? Bien parce que les montagnais propageaient une rumeur disant que les Français avaient fait alliance avec les Iroquois et qu'ils envisageaient de massacrer les Algonquins. Donc Champlain a réussi à rassurer les Algonquins, et en particulier Tessoat, et Tessoat a accepté de prendre Vigneault avec lui pour lui faire vivre l'hiver 1611-1612. Mais bon, Champlain a dû quand même, en échange, promettre aux Algonquins de les aider dans leur guerre contre les Iroquois. En 1612, Champlain n'a pas tenu sa promesse, puisqu'il était retenu en France par ses démarches pour obtenir l'aide d'un grand et un monopole de la traite des fourrures. Et les Algonquins ont été très déçus de trouver, en raison de l'absence de Champlain en 1612, Champlain n'avait pas tenu sa parole. Donc au printemps 1613, les Algonquins sont partis en guerre contre les Iroquois sans attendre Champlain. Bon, à leur retour, ils sont un petit groupe d'Algonquins est passé au rapide de la Chine et là, des marchands français leur ont appris que Champlain était de retour en Amérique. Il venait d'arriver à Tadoussac à la fin du mois d'avril. Alors les Algonquins étaient contents, mais ils n'ont pas voulu attendre Champlain. Ils ont voulu tout de suite retourner chez eux pour faire mourir les deux prisonniers qu'ils avaient amenés et aussi pour fêter leur victoire avec les membres de leur communauté. Et finalement, donc, Champlain arrive au rapide de la Chine le 21 mai 1613. Il ne veut pas attendre les Algonquins, parce que lui, son objectif, c'est de trouver la mer du Nord, et il veut faire ça très rapidement, parce qu'il doit être de retour à Tadoussac pour la fin du mois d'août, pour pouvoir entrer en France avec les bateaux qui ont fait la traite, mais aussi la pêche des boucles. Donc le 29 mai 1613, Champlain franchit les rapides de la Chine. Les 2 et 3 juin, il rencontre un groupe d'Algonquins du lac Muskrat en route vers les rapides de la Chine. Et il leur dit qu'il fait cette remontée de la rivière des Outaouais, non pas pour trouver la mer du Nord, mais pour rassembler des alliés afin de partir en guerre contre les Iroquois. Le 7 juin 1613, Champlain donc rencontre d'autres Algonquins au bord du lac Muskrat. Il leur dit de nouveau qu'il veut absolument faire la guerre avec les Iroquois. Et enfin, la rencontre avec les Squaws a lieu les 7 et 10 juin 1613, donc au bord du lac des Allumettes et sur l'île Morisol. Champlain dit à Tessoir que son seul but, le seul but de son voyage, c'est assurer les Clichy-Sipérini de son affection, je cite, et de son désir de les assister dans leur guerre. Il dit qu'il a été absent en 1612 parce qu'il était employé par son roi à d'autres guerres, il ne précise pas lesquelles. Il dit que de nombreux Français sont prêts au combat et qu'ils sont à la disposition de Champlain au rapide de la Chine. Là, il exagère parce qu'en fait, il y en a très très peu, il y a des marchands. Et il dit aussi qu'il désire voir les Nipissings pour les confier à la guerre. Alors ça, cette demande pose un problème, puisque les Clichy-Sipérini ne tiennent absolument pas à voir Champlain arriver chez les Nipissings. Les Clichy-Sipérini veulent rester des intermédiaires entre les Français et les peuples du Nord. Bon, finalement, Tessoir accuse Nicolas Vignaud d'avoir menti à Champlain à propos de la mer du Nord. Et il le pousse à avouer finalement qu'il n'y est pas allé lui-même. Et Champlain renonce à son voyage en la mer du Nord. Il refuse de heurter les Clichy-Sipérini et son allié Tessoir. Et il leur promet, il promet même à Tessoir de revenir en 1614 avec de nombreux soldats pour aller à la guerre. Et Champlain fait le voyage du retour et il arrive au rapide de la Chine le 17 juin 1613. Il s'embarque tout de suite pour la France et il arrive à Saint-Malo le 26 août 1613. Donc Champlain a réussi à préserver l'alliance franco-algonquine. Ça, c'est le résultat le plus important de la remontée de la rivière des Outaouais. Champlain est avant tout un diplomate. Il sait que les alliances franco-amérindiennes sont essentielles pour l'essor de la Nouvelle-France. Et lors de son retour en France, après la remontée de la rivière des Outaouais, Champlain réussit à constituer une compagnie commerciale pour exploiter le monopole de la fourrure qui a été accordé au prince de Condé. Les Malouins acceptent de rentrer dans cette compagnie commerciale, puisque finalement la traite de 1613 a été très bonne, l'alliance franco-algonquine a été ressoudée. Mais le gros échec de Champlain, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver la mer du Nord et donc le chemin facile vers la Chine. Champlain doit se justifier auprès du pouvoir royal et donc il rédige le récit de la remontée de la rivière des Outaouais. Ce récit qui va être publié dans ses voyages qui portent le millésime de 1613, mais qui sont en fait publiés en 1614. Et Champlain insiste sur le mensonge de Nicolas de Vignaud. Il n'est pas allé lui-même au bord de la mer du Nord. Champlain insiste aussi sur les mensonges de Tessoir, qui a voulu le dissuader d'aller voir les Nipissings. Et Champlain insiste aussi sur ses mensonges à lui. Champlain a également menti. Et finalement, Champlain, dans son récit du voyage de 1613, eh bien, il reprend à son compte une opinion très commune en France au début du XVIIe siècle. Dans ce récit, Champlain présente le Canada comme étant le royaume de Satan. Et il rappelle que Satan est le père du mensonge. Alors, merci.
De la rencontre et ensuite du processus de colonisation, le commerce d'une part et cette volonté de trouver un passage vers la Chine. Donc nous allons maintenant davantage approfondir notre réflexion autour de l'œuvre même de Champlain, à travers donc l'intervention de ces instituts.
Merci beaucoup. Le micro fonctionne. D'accord. Je ne vais pas beaucoup parler du voyage de 1613 en particulier, parce que dans le sujet qui m'intéresse, les historiens de la littérature parlent des voyages de Champlain de manière complètement indifférenciée. Alors, on ne sait jamais exactement de quel voyage il parle. Vous allez voir. Alors, dans l'historiographie canadienne, Champlain fut tantôt qualifié de marin et de chef, de navigateur et de cartographe, de géographe professionnel et de colonial administrator, tantôt d'homme de mérite et même de père de la Nouvelle-France. Mais beaucoup plus timidement d'auteur. Ainsi, bien qu'il ait publié une œuvre considérable, le tout comptant plus de 1000 pages, il est rarement considéré comme un écrivain à part entière par les historiens de la littérature. Par exemple, en 1913, soit 5 ans après le tricentenaire de la Fondation Québec, qui a été célébré par l'émission de timbres, toutes sortes de brochures, probablement même de bières avec toutes sortes de produits dérivés à l'époque, Gilbert Chinard écrit que Champlain, je cite, « n'est ni un grand écrivain, ni un grand artiste, et qu'il manque évidemment de littérature. » Fin de citation. Au regard du prestige accolé au terme « écrivain » à l'époque moderne, donc depuis le 19e siècle, il faut avouer que Chinard n'a pas tout à fait tort. Aussi est-ce un petit pas que l'histoire littéraire québécoise a admis Champlain à son panthéon, consacrant peu à peu son statut d'homme de lettres du XVIIe siècle. Alors j'ai choisi homme de lettres parce que on se concentre sur l'écriture et les lettres et non pas sur le statut prestigieux d'écrivain. Plus discrète, l'institution littéraire française a tout de même fait un effort, quoique tout récemment et de manière fort modeste, en proposant une étonnante anthologie scolaire que j'ai ici. La voir, publié en 2008 dans une collection scolaire du genre classique Larousse, de ses voyages au Canada. Certes, en comparaison des histoires de voyage à la terre du Brésil de Jean Berry ou du grand voyage du Huron de Gabriel Sagard, l'écriture de Champlain semble sèche, exempte d'émerveillement, voire strictement documentaire. Dans la présente communication, j'examinerai donc quelques facettes de la fortune littéraire des voyages de Champlain, tant chez les contemporains, donc ceux qui ont vécu le XVIIe siècle, ces contemporains qui l'ont plagié, et que dans l'histoire littéraire québécoise. Je disais à l'instant que Champlain était, dans l'histoire littéraire, plus rarement qualifié d'écrivain que d'auteur. Et même les deux qualificatifs sont rares, on parle surtout de ses autres qualités. En fait, il est plus souvent comparé à une espèce d'historien des premiers temps de la colonie, alors que les historiens dans la salle seraient bien sûr horrifiés de le voir. C'est un chroniqueur, mais c'est pas un historien. Puisqu'il sera ici question de différents discours de légitimation pour transformer Champlain en auteur, j'aimerais distinguer deux termes élémentaires du champ littéraire. Rémy Ponton définit en ces termes auteur et écrivain. Ce sont deux définitions qui seront bien utiles. L'auteur d'un texte, et je le cite, est celui qui l'écrit, ça vous le savez, aussi bien en littérature qu'en tout autre domaine. Et il ajoute qu'en littérature subsiste ce qu'il appelle une aura de puissance créatrice. Enfin, auteur, qui s'applique à toute production écrite, se distingue aujourd'hui d'écrivain, du moins en français, qui concerne la littérature seule. En gros, on peut être l'auteur d'un travail de session, soit un étudiant, l'auteur de rapport, mais ça ne fait pas de nous un écrivain. Alors, c'est sur ces distinctions prestigieuses que je vais insister. Si Champlain a probablement écrit l'essentiel de ses œuvres, et même de ce point de vue, il y a le débat, est-il pour autant un créateur? Alors ça, c'est une question qui m'intéresse. Quant à l'écrivain, et je cite encore une fois Raymond Ponton, à l'époque moderne, à partir du XVIIe siècle, dans une acception, dans un sens spécifique, il désigne l'auteur d'une œuvre littéraire reconnue, non pas simplement n'importe quelle œuvre littéraire. Ainsi, l'écrivain assume toujours la part matérielle du travail de l'auteur, c'est-à-dire qu'il écrit, mais dans le domaine littéraire, il a une part symbolique spécifique et prestigieuse. Donc, autrement dit, il faut que l'œuvre soit reconnue comme telle, considérée comme prestigieuse. Molière est un écrivain, Champlain est tout au plus un auteur. Bon. En somme, tout auteur a besoin d'une institution, quelle qu'elle soit, pour légitimer son œuvre et faire de lui un écrivain reconnu. Il ne peut pas réussir tout seul, il a besoin d'appui. Dans une mission commerciale et aussi dans une mission littéraire. Alors, nous verrons que dans le champ littéraire canadien-français, et plus largement pan-canadien, une fois que le Canada anglais, à partir des années 1930 à peu près, a commencé à s'intéresser aux textes français du premier siècle de la colonisation. Alors, dans le champ littéraire, les enjeux de légitimation de l'œuvre de Champlain posent des défis étonnants. Alors, je vais d'abord vous parler de Champlain comme source historique, mais ce sera très bref. Alors, de la réception des voyages de Champlain au XVIIe siècle, je ne dirai rien d'autre aujourd'hui que ceci. Ils ont été lus, très tôt cités et copiés, et parfois sans mention du nom de Champlain. C'était très courant à l'époque. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Mais puisque la discipline de l'histoire littéraire a vu le jour, donc en France du moins, au début du XIXe siècle, ce qui coïncide avec l'émergence de la conception moderne de la littérature, autrement dit, au XVIIe siècle, Champlain ne faisait pas littérature, parce qu'on n'en parlait pas, je préfère ne pas m'aventurer dans ces tomes projet. En revanche, comme le XIXe siècle québécois adopte, du point de vue de l'histoire littéraire, sensiblement le même discours de légitimation qu'en France, il me semble parfaitement convenable d'y commencer mon enquête. Je l'ai dit plus tôt, si Champlain fut considéré comme un homme de lettres au XIXe siècle, c'est avant tout pour des raisons chères aux historiens. D'ailleurs, le premier éditeur des œuvres de Champlain, des œuvres complètes de Champlain, qui a eu lieu donc à Québec en 1870, alors l'éditeur des premières... le premier éditeur des œuvres de Champlain, l'abbé Charles Honoré de la Verdière, n'est pas un littéraire, mais plutôt professeur d'histoire à l'Université Laval. Alors ça vous donne une idée de l'intérêt donc, de la recherche à l'époque. Aussi écrit-il, sans grande surprise dans sa présentation, je le cite, « Mais ce qui ajoute encore une valeur singulière aux écrits de Champlain, c'est qu'il est, pour ainsi dire, le seul de nos anciens auteurs que l'on puisse regarder comme une source historique proprement dite. » Fin de citation. Les propos d'Averdière seront maintes fois repris jusqu'au tournant du XXe siècle, notamment par Edmond Larrault, que personne ne connaît ici, qui est l'auteur de la première histoire de la littérature canadienne en 1874. C'est le premier texte du genre. Il écrira de Champlain simplement « C'est encore une des meilleures sources de notre histoire. » On ne parle pas de style, d'œuvre littéraire, mais encore une fois d'histoire. Alors, comme je l'évoquais à l'instant, quelques années à peine après leur publication, les voyages de Champlain sont cités et copiés. Et d'une manière ou d'une autre, ils font autorité au début du XVIIe siècle. C'est une lecture obligée. Maurice Lemire, en 1991, dans La vie littéraire au Québec, écrira, je cite, « En raison de la précision de ses renseignements et de l'objectivité de ses observations, le récit de voyage de Champlain demeure longtemps le texte d'introduction à la Nouvelle-France le plus populaire et le plus copié. L'escarbot et sa gare en reproduisent des parties intégrales, sans toujours le dire. Les jésuites y font souvent allusion. Pierre Boucher avoue sa dette envers Champlain. » Pierre Boucher, on est en 1664, donc dans quelques années après Champlain. Et pour vous donner une idée des usages de Champlain, au XVIIe siècle, je vous donnerai simplement l'exemple du jésuite Pierre Rivard. Alors, en 1616, dans sa relation à la Nouvelle-France, et je m'excuse pour les interprètes, le français ici est un peu bizarre, il décrit les symptômes du scorbut. Alors, je cite Pierre Rivard en 1616. Deux points, ouvrez les guillemets. « Le sieur de Champlain, philosophant sur ceci, attribue la cause de sa maladie aux vapeurs que ceux-là boivent, qui labourent, ceux-là qui labourent, donc les hommes et les femmes qui labourent, renversent et habitent premièrement ces terres, lesquelles n'ont jamais été découvertes du soleil. » Donc le scorbut vient du fait qu'on ouvre la terre et qu'on libère des vapeurs. Fin de citation. Il va même plus loin vers la fin de son récit en affirmant « Tout le monde le sait par les voyages de Champlain. » Tout le monde. Alors une hyperbole qui nous montre que tout le monde qui vient en Nouvelle-France à cette époque a lu Champlain. Et encore en 1744, dans sa monumentale histoire et description générale de la Nouvelle-France, le père Charles Roy, qui a donné son nom à la belle région de Québec, puise largement dans les œuvres de Champlain pour couvrir les années 1603 à 1636. Parce que c'est à peu près la seule source. Alors, je termine ici la section qui porte sur Champlain comme source historique. Pour passer à Champlain, homme de lettres. J'aimerais donc aborder une autre facette de la carrière d'homme de lettres de Champlain en analysant la réception de son œuvre par l'Institution littéraire du Canada français. Mais avant de passer plus outre, comme l'aurait écrit Champlain lui-même, il convient de préciser un détail qui vaut tant pour les écrits de la Nouvelle-France en général que pour ceux de Champlain en particulier. Avec le temps, et ça il faut le savoir, ces œuvres trouvent leur place dans les ouvrages littéraires du Québec et du Canada, qu'ils soient rédigés en français, en anglais ou même en allemand, parce qu'il y a des histoires de littérature canadienne maintenant qui sont écrites en allemand. Par exemple, dans A History of Canadian Literature et Encyclopedia of Literature in Canada, deux ouvrages dirigés par William New, et aussi dans un autre ouvrage qui s'appelle Canadische Literaturgeschichte, donc littérature, histoire de la littérature canadienne, un livre de 2005. Ces trois ouvrages parlent de manière très limpide de la littérature coloniale du Canada, qu'elle soit écrite en français, en anglais, en latin et même en italien, parce qu'il y en a dans ces quatre langues. Dans ces ouvrages, même si Champlain n'est pas salué pour son style, mais plutôt pour sa précision, il occupe une place de choix parmi les textes fondateurs. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Et là, je vais faire un survol. Alors, dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, d'Edmond Laroux, Histoire de la littérature canadienne, l'auteur demeure très vague dans le petit paragraphe qu'il consacre à Champlain. En fait, il préfère citer In Extenso, le titre d'un ouvrage qui court sur 20 lignes. Alors, au XVIIe siècle, le titre est très, très long pour bien dire ce qu'il y avait dans le volume. Et donc, il cite en fait la Vue la Verdière. Est-ce qu'il le considère comme un auteur, comme un écrivain? C'est très difficile à dire, mais au moins, il l'inclut dans son volume, ce qui est déjà un indice. Monseigneur Camille Roy, quelques années plus tard, lui, s'est plutôt intéressé à la littérature proprement canadienne, c'est-à-dire celle produite après 1760. Pour lui, la littérature de la Nouvelle-France et Champlain y compris ne sont pas littérature canadienne. Alors, je vais régler son cas très rapidement. Il n'y a que des mentions de Champlain, mais à chaque fois, c'est pour dire qu'il n'est pas canadien. Alors, il est quand même mort à Québec. Mais c'est le point de vue le plus extrême sur la littérature de la Nouvelle-France, celui de Monseigneur Roy. En 1960, Gérard Touga exprimera à peu près le même point de vue, mais sur un ton encore plus catégorique, probablement nourri par le vent de la Révolution tranquille. Pour lui, dans son ouvrage qu'il publie à Paris, les écrits de la Nouvelle-France ne sont qu'une innocente boursouflure dans l'histoire littéraire, donc on ne devrait pas en tenir compte. Autrement dit, Champlain a existé, c'est très bien, mais ce n'est pas de la littérature. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce qu'il écrit, simplement pour dire, si nous retenons Champlain et les autres, c'est parce que des écrivains, des romanciers se sont inspirés de leurs écrits pour écrire des romans et des pièces de théâtre. S'ils ne l'avaient pas fait, on les aurait oubliés. Donc c'est un point de vue assez extrême. D'autres historiens de la littérature québécoise n'étaient pas aussi catégoriques. Alors, par exemple, même avant les années 60, Berthelot Brunet, en 1946, écrit qu'il apprécie certaines œuvres de la Nouvelle-France, dont les relations des Jésuites et les écrits du baron d'Antan. En fait, il aime le baron d'Antan parce que c'est un drôle de type, assez drôle et plutôt menteur. Et aussi, il entend critiquer les Jésuites. Et ça plaisait bien à M. Brunet. Mais il n'est pas complètement réfractaire à Champlain. Mais il n'aime pas trop son style. Alors, je le cite. « Non qu'aient été de grands écrivains les précurseurs comme Jacques Cartier-Marc Lescarbot ou Champlain, que la langue du temps paraisse plus riche aux esprits qui jugent à la hâte, ne nous doit donner le change, libre-nous pourtant d'en goûter la naïveté de pittoresque. » Bref, Champlain n'est pas sans qualité, mais ce n'est pas son auteur préféré. En 1957, dans Littérature canadienne-française, Samuel Bayer-Jean consacre une section à ce qu'il appelle l'étape du régime français, c'est-à-dire aux écrits de la Nouvelle-France. Le texte de Bayer-Jean est un manuel scolaire, donc on entre ici dans une culture populaire. Une culture populaire au sens où elle est largement diffusée dans les écoles, ce qui fait que Champlain est enseigné aux enfants. Et il écrira, les figures sont représentées, Cartier, Lescarbot, Champlain, bien sûr, et il écrit au sujet de Champlain. Il a vécu assez longtemps au Canada pour s'adapter au pays, ses écrits en font foi. Quoique de médiocre valeur littéraire, il révèle un observateur minutieux, méticuleux même, détails topographiques, mœurs des aborigènes, chroniques détaillées de ses combats. Et il cite une longue description de la nature. Bon. J'arrive à la conclusion, il me reste deux textes à regarder avec vous. Le premier, c'est deux ouvrages d'histoire littéraire qui sont plus ambitieux. Le premier s'intitule « L'histoire de la littérature française du Québec », ce qui est une franchement tradition, qui a été publié entre 1967 et 1969. C'est un ouvrage collectif en quatre volumes dirigé par Pierre de Grandpré, et les écrits de la Nouvelle-France sont très présents, surtout dans le premier volume. Cela dit, dans un chapitre consacré aux découvreurs et visiteurs, 1534-1632, donc les premières années, figurent Cartier, Lescarbot et Champlain, c'est Champlain qui occupe le moins d'espace, soit une toute petite page sur les 12 au total. Les co-auteurs du chapitre lui préfèrent Cartier et Lescarbot. Et le jugement critique de Grandpré reste assez ambivalent, je vais le citer. Samuel de Champlain est un écrivain assez quelconque. Alors, médiocre, quelconque, historien, cartographe, voilà. Il appartient donc plus à l'histoire générale qu'à celle des lettres françaises du Canada. Pourtant, cet ethnographe, géographe et cartographe a bien vu le pays. Il sait raconter, tout autant qu'il sait décrire, avec précision, en observateur curieux et en homme d'action. Mais malgré tout, il est d'une valeur littéraire médiocre, malgré toutes ses qualités. Donc, on voit toute l'ambivalence de l'institution littéraire. Alors, le dernier ouvrage a été publié en 2007 et offre donc un point de vue différent. Alors, il s'agit de l'histoire de la littérature québécoise, écrite par Michel Biron, François Dumont et Elisabeth Narbou-Lafarge, qui sont tous les trois professeurs d'université et spécialistes du XXe siècle. Il le considère d'emblée plus géographe qu'écrivain, mais quand même un peu écrivain. On le sent dans cette nuance. Et le discours de légitimation est en parfaite continuité avec leur prédécesseur. Je les cite. Champlain ne se contente plus, lorsqu'il rencontre les Amérindiens, de consigner les faits, mais il construit un récit circonstancié de la scène. Et il poursuit, les portraits sont plus riches que ceux de Cartier et les lieux sont évoqués avec davantage de précision. Et j'arrive à ma conclusion, je vais dépasser de 30 secondes. Alors, en conclusion, je dirais que le survol que nous venons de faire, bien que trop rapide ou trop long pour notre président, a permis de dégager des régularités et des tendances dans le discours de légitimation qui se trouve au cœur des histoires littéraires du Québec publiées depuis 1874. On en a 140 ans. Tout d'abord, le nom de Champlain y apparaît toujours, et je vous le jure, il apparaît dans toutes les histoires littéraires. Et ce n'est pas le cas de tous les auteurs de la Nouvelle-France. De plus, si les critiques s'entendent pour accorder à Champlain le statut d'auteur le plus neutre possible, ils soulignent également sa multidisciplinarité. Il n'est pas qu'auteur, il est aussi ethnographe et autre chose. C'est une manière d'attirer l'attention ailleurs. Quant aux tendances, elles révèlent notamment les changements qui se sont opérés dans la manière même d'écrire l'histoire littéraire, mais aussi dans les sensibilités esthétiques. Par exemple, la collectivisation des dernières histoires littéraires minimise les risques d'un traitement lapidaire, ce qui rend impossible les exclusions systématiques d'un Camille-Roy, par exemple. On a pu plus dire « mon Champlain, je l'aime pas, j'en parle pas ». On est obligé de l'en tenir. Autrement dit, les points de vue multiples ont permis à Champlain et aux autres fondateurs coloniaux de trouver leur place dans l'histoire littéraire. Enfin, et c'est le dernier point, contrairement à ce qu'on observe dans les premiers ouvrages, les auteurs des plus récents panoramas, plus sensibles à l'esthétique du fragment, relèvent aussi plus volontiers les micro-récits présents dans les voyages de Champlain. Parce que ce sont des 20e et des postmodernes, de manière étrange, ils perçoivent des micro-récits, ce que les autres ne voyaient pas. Il faut dire aussi que, bon, depuis une quarantaine d'années, on n'a plus besoin de justifier l'existence de la littérature québécoise. On peut donc se concentrer sur d'autres enjeux. S'il est peu probable, et c'est ma dernière phrase, que Champlain soit un jour qualifié de grand écrivain par l'institution, l'histoire littéraire québécoise et probablement canadienne a déjà déterminé qu'il s'agit d'un auteur incontournable. Merci.
pas tout à fait clair pour nous historiens, pour nous porteurs du patrimoine. Hein, c'est, vous avez là un auteur qui est bien sûr incontournable, même s'il est discuté, hein, même si ses propos parfois doivent être fortement nuancés. Hein, mais néanmoins, voilà, c'est quelqu'un qui a été bien sûr, mais qui sera incontournable encore à l'avenir pour le début de cette province française en Amérique. Nous allons maintenant laisser la parole au chef de l'Hiver. Il va peut-être rebondir sur les interventions qui ont été formulées de ce.
Merci beaucoup. Ketchy Miigwech, merci pour l'opportunité de faire une présentation tout à coup. In listening to the presentations, I haven't been in a university course in a while, so it's a struggle to follow all of the facts that are being presented. But I do want to present, I think, some important points as we're discussing, certainly the symposium here on Champlain, but for the Anishinaabe people, I was the elder, and I'll attack him on the drum this morning, and I'll come back to that, how important that is, that symbolically for us, there is no celebrating. We view this as an historical encounter that was part of an ongoing impact that was taking place on the Anishinaabe people, on Anishinaabe Aki, on Anishinaabe land, which continues to be Anishinaabe land. This impact has had tremendous ripple effect. And there is no doubt that one of the important factors in this encounter between Champlain and Algonquin that had other encounters, but we're taking with Champlain, and we saw this morning again the importance of protocol. We often forget that institutions, and whether they be government or educational, forget about the importance of protocol when you are on someone else's territory. The importance of taking the time. And people have difficulty. They view it only as symbolic, with not a lot of meaning. But just as it was important for when Champlain sat down with Tezewak to have a Tebaji, to have that smoke tank to Creator and to make a connection, these ceremonies, held by elders, the songs, become very important for us because it continues to be our connection to that history that is still, for us, an ongoing history of who we are as a people. Later on this afternoon, I'm going to take the opportunity to share with you what I would venture to say is a reflection. I was trying to think of what it is I would present, and in my mind I said, I wonder the evening before Champlain arrived in Morrison Island, what may have been going through his mind? Did he take some time alone and say, you know, I know this guy, I know this French guy that's coming up. I wonder what he's up to. Because the Anishinaabe people, and Chief Tezewet and others in particular, knew very well. And again, I'll go in a bit of detail of the spiritual connection that the medicine people had at that time and the power and opportunity to travel in time. This is not a Back to the Future story. This is what it is. And I'll want to share, again, it's just a reflection from the point of view that I have. And the point of view that I bring is having listened and read legends and stories and having elders spoken, and as some said, la rencontre avec Champlain n'était pas à bras ouverts. Il y avait une grande résistance de la part des Anishinaabe qui se posaient plein de questions, mais voyaient aussi des opportunités. J'ai écouté, peut-être que j'ai mal compris, qu'il y avait Tezewet may have been lying at one point. I find that very difficult in any frame of mind. The Anishinaabe people were very honest people. It may have been in the way that it was being shared and interpreted, but they would speak from the heart and from the spirit. And the words will always be very carefully selected. Alors, c'est sûr que les points de vue que nous, on a appris, qui nous ont été laissés de cette rencontre-là, le point de vue qui vient d'un point de vue, it's a world view that is, in some ways, different. It has been, of course, diluted, unfortunately, because of the education process that we've been forced to go through. But the dilution has not taken away the fundamental teachings that are still there today that have been passed on about this encounter. And again, I repeat, the encounter that has come to change our life, but has not come to change the spirit. It came to change the land, but it didn't take the land away. The Anishinaabeyaki is still Anishinaabeyaki. Whether Champlain thought that he was going, and he does later on in 1615, go further, I guess for his king and for his people, he did not take away from the Anishinaabe people. And it's important to point that out, because again, this view for us is that tread that crosses time, and it's a tread of unbroken time, where we have never ceded our territory. And the land, I'm very pleased of the elder's words, of that land and that string across time on the land, how the land has been kicked around. And all of those teachings and all of those protocols were behind trying to ensure that the land would remain healthy because the people had to remain healthy. But no doubt the Tezuat, his warriors, his people, his women and men, obviously were worried and concerned that things were changing, and they were beginning to prepare for this change. I was coming down last night very late, and I'll close on this because I know we're short for time. I was coming down Highway 17, having gone to a meeting up north in one of the Algonquin communities. Been up and down that road before. Obviously, I wasn't on a Kichisipi in a canoe, I was in a car. And I was thinking about the symposium and wondering at this land that where Tezuat in particular had been. Was looking for markers, the markers that were on the land. And of course, you see large pine trees, you see other. But even in 2013, in that connection, in that spring that I referred to, unless I was blinded by the night lights and the numerous trucks on the road, the only thing that I really saw that came to commemorate and recognize this important territory and Jesus. Historical encounters was a sign that says this is where Champlain's alleged astrolabe was found. The Anishinaabe are still here. Champlain obviously wasn't fearful to meet with us. He may have come with reluctance when he met, and he met. I ask you, why are you fearful to recognize and ensure that our symbols and our place on this territory is clearly demonstrated in a tangible way, or in intangible ways also, but in a very tangible way. We speak of reconciliation, and to me the reconciliation is very often, when I go back to Tezuat around the Tebeji, where you shared very openly, and you shared that you would speak not with a black stain on your spirit, but with an open heart to bring about change. So I'll leave you with that for us, this string of time keeps us connected to Tezuat and all of those that came before Tezuat, dating back thousands of years. And we were not, the word Algonquin, as you know, is used, and we know why, historians will know why, that probably know why that name was used, but we were not Algonquin. We were Anishinaabe. People put here by the Creator on this land, We weren't put in France. We weren't put in Germany. We were put on this piece of land. Mm-hmm. As the people responsible for it, as the stewards, whatever terminology we want to use today, a very important one. And the importance of that historical encounter, that the intent of both parties needs to come back to its true intent. Teach me much.
Merci, chef, pour votre intervention qui souligne justement parfois le décalage entre les traditions léguées par les aînés et l'éducation qu'on tente d'imposer sans nuance. Et justement, le compromis est peut-être certain entre les deux, tout en respectant les positions et les valeurs de chacun. Donc, si vous le souhaitez, nous vous proposons une petite dizaine de minutes de questions. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Et... Bon, solliciter la